Code économie.
Hausse de 11% du bénéfice annuel de la Rawbank. L'institution bancaire affirme que c'est grâce à la prospérité de l'industrie du cuivre en République démocratique du Congo. Malgré la levée de la grève des conducteurs des poids lourds entre Kinshasa et Matadi, le ciment gris se fait toujours rare dans la capitale, en cause des embouteillages persistants sur la nationale numéro 1. Bienvenue à tous. La Rawbank annonce une hausse de 11% de son bénéfice annuel grâce à la prospérité de l'industrie du cuivre en République démocratique du Congo qui a stimulé la performance de son principal prêteur. Le bénéfice après impôt de la banque a atteint 212,7 millions de dollars pour l'exercice clos en décembre contre 191,4 millions de dollars pour la période précédente. Dans le cadre d'un accord historique pour le petit secteur bancaire congolais, la Rawbank a conclu un prêt syndiqué de 400 millions de dollars pour la mine de Kamoa-Kakula, l'un des plus grands projets du cuivre au monde détenu par Ivanhoe Mines et les groupes chinois Zijin Mining Group. Cela a incité le prêteur à développer ses activités de financement d'entreprise, la RDC attirant de plus en plus d'investisseurs étrangers cherchant à tirer profit de ces minerais, a déclaré à l'agence de presse Bloomberg Naïma Issaoui, directrice des performances et du réseau de la Rawbank. Illico Cash, la plateforme numérique de la banque, a vu le nombre d'utilisateurs mensuels augmenter de 75% et cela a permis des paiements continus dans l'est du pays, partiellement sous le contrôle de rebelles, même si toutes les banques restent fermées en vertu d'une directive de la Banque centrale. Malgré la reprise officielle du trafic de poids lourds entre Kinshasa et Matadi, le ciment gris se fait toujours rare dans la capitale. La raison, un important embouteillage persiste sur la RN1, axe principal d'approvisionnement. Ben Chokuta pour les détails.
Depuis la levée de la grève samedi dernier, des centaines de camions font la queue sur la route nationale numéro 1, bloquée d'interminables bouchons. Selon un chauffeur contacté par Radio Capi, un trajet qui prenait quelques heures dure maintenant jusqu'à 3 jours. Résultat, le ciment, bien que de nouveau en route, peine à atteindre les dépôts de Kinshasa. Modeste Moussand, un distributeur de ciment, explique que les stocks avaient été complètement épuisés durant la grève et qu'il faudra du temps pour reconstituer l'offre.
Nous venons d'une grève qui était vraiment sèche, qui a vidé tout Kinshasa des stocks. Et là, le besoin est énorme. Nous avons difficile à satisfaire tout le monde. Et il y a aussi un autre problème, les embouteillages. Les remorques font deux fois plus de 3 jours à 4 jours pour arriver ici, pour faire local à Kinshasa. Mais actuellement, ils font 2, 3 jours, 4 jours. Et il y a encore un autre aspect, c'est la saison sèche. Pendant cette saison, le besoin a toujours été énorme puisque tout le monde veut construire. Vu qu'il ne pleut plus, tout le monde veut se lancer dans la construction.
3 jours plus tôt, la levée du mouvement avait pourtant permis une baisse immédiate du prix du sac de ciment, tombé de 60 000 à 33 000, voire 28 000 francs d'un certain point de vente.
Plus de 1000 tonneaux et plusieurs camions-citernes remplis de carburant ont été saisis à Kinshasa lors d'une opération coup de poing menée lundi par la Brigade pour la protection de l'environnement et du bien-être social. L'intervention a eu lieu dans un entrepôt situé à la 16e rue Limété où un vaste réseau de ventes illicites de carburant opérait en toute clandestinité. C'est dans un ancien entrepôt de la société Zénith, censé servir au stockage de matériaux de construction, que les réseaux avaient discrètement pris ce quartier. Au-delà du risque environnemental et sécuritaire, les analystes soulignent un impact économique préoccupant. Ce trafic prive l'État des précieuses recettes fiscales liées aux produits pétroliers, introduit une concurrence déloyale face aux opérateurs officiels et déstabilise le marché local du carburant. Le ministre des Finances, Doudou Fouamba, a signé mardi le mémorandum de politiques économiques et financières au cours de la réunion stratégique de la Troïka politique tenue au centre financier de Kinshasa. À travers ce document clé, le gouvernement congolais s'engage à renforcer la gouvernance économique. Explication Blaise Ndongala.
La signature de ces mémorandums constitue un jalon essentiel dans le processus de finalisation du nouveau programme soutenu par le Fonds monétaire international en prélude du conseil d'administration prévu prévues le 2 juillet prochain. Elle traduit l'alignement institutionnel autour des réformes prioritaires engagées sous la conduite du gouvernement congolais. Le ministère des Finances et du Budget, en étroite coordination avec la Banque centrale du Congo, s'engage à accélérer l'exécution des mesures structurantes attendues avant la fin du mois de juin courant. Les ministres Doudou Fouamba et Aimé Bogi ont enjoint leurs équipes techniques à se mobiliser rapidement pour faire le point sur l'état de mise en œuvre et harmoniser les actions à entreprendre. Ils franchissent ainsi un cap clair et font preuve d'une volonté politique affirmée pour consolider la stabilité macroéconomique et conforter la confiance des partenaires internationaux.
Rendons-nous en Ituri où le tronçon Bunia-Kasenyi présente des difficultés d'accessibilité à cause des montagnes qui surplombent cette route. C'est l'une des conclusions de l'étude de faisabilité effectuée sur la route Bunia-Kasenyi par l'entreprise Okapi Global Engineering Construction, OGEC en sigle, basée à Kinshasa. C'est en vue de l'asphaltage de cette route longue de 50 km qui relie la RDC à l'Ouganda à travers le lac Albert. Les ingénieurs de cette entreprise ont présenté mercredi au gouvernement de province intérimaire le rapport technique et géotechnique pour la réalisation des travaux sur cet axe. Kambu Manzekele de l'entreprise OGEC précise que ces défis pourront être relevés lors de l'exécution des travaux dont la date du démarrage n'est pas encore connue.
Écho d'économie.
Vous l'avez certainement suivi sur nos antennes, les trois provinces du Grand Kivu, notamment le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema, ont signé il y a quelques jours un accord de coopération interprovinciale afin de mutualiser les efforts pour le développement durable de ces entités. Nous en parlons dans cette émission avec le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi. Notre invité s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi, bonjour.
Oui, bonjour.
Quel est le bien fondé de cet accord signé aujourd'hui entre les trois provinces ici présentes?
Oui, ce sont les trois provinces du Grand Kivu, à savoir la province du Sud Kivu, la province du Nord Kivu et la province du Maniema. L'importance, nous avons décidé de nous mettre ensemble. Il faut savoir que c'est une initiative qui a commencé en janvier dernier avec Feu Tshiyimami, avant qu'il nous quitte. On a fait la première réunion Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema à Bukavu. L'idée, c'est de nous mettre ensemble pour essayer de faire face aux nombreux défis qui affectent la population du Sud Kivu, du Nord Kivu et du Maniema.
Et pourquoi seulement les trois provinces?
Bon, les trois provinces, c'est d'abord une expérience. Nous nous sommes dit qu'il faut d'abord commencer petit et voir comment ça va se passer pour mieux évoluer. Il faut savoir que nos provinces du Sud Kivu, du Nord Kivu et du Maniema sont confrontées à une particularité liée notamment aux questions minières. Donc il y a un sérieux trafic illicite de nos minéraux. Comme vous savez, nous sommes en guerre, mais l'objet principal de la guerre, nos voisins nous font la guerre, le monde entier nous fait la guerre, tout simplement parce que nous avons des minéraux stratégiques. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est ici l'occasion de rappeler que la province du Sud Kivu elle-même, nous sommes très très riches en minéraux, sûrement la région la plus riche en minéraux stratégiques dans le monde. À titre d'exemple, les recherches que nous avons menées montrent que la province du Sud Kivu a 14 fois plus de ressources naturelles et minières notamment que le Grand Katanga réuni. Il faut savoir par exemple que la province du Lualaba à elle seule, environ 3 millions d'habitants, génère à peu près 50 à 53 millions de dollars américains le mois de recettes. Et ces recettes sont générées sur base de deux produits miniers, à savoir le cobalt et le cuivre. 53 millions de dollars par mois. Maintenant, la province du Sud Kivu elle-même, selon les recherches, détient 14 fois plus de minéraux que le Grand Katanga. Et la province du Sud Kivu n'a jamais, avant qu'on arrive à la tête de la province, n'a jamais généré plus de 500 000 dollars américains le mois. Donc voilà un peu le problème. La province du Sud Kivu elle-même a la cassiterite, le coltan, l'or et la tourmaline. Ce sont des minéraux qui sont en cours d'exploitation et certifiés forcément. Et à côté, nous avons maintenant des minéraux certifiés mais jamais exploités, à savoir le diamant, le cobalt, les terres rares. Il faut savoir que les terres rares, c'est une composition d'environ 18 8 minéraux stratégiques. Nous avons le lithium, nous avons d'importantes réserves de pétrole, nous avons du manganèse, nous avons du gaz méthane et tous ces produits que je viens de citer n'ont jamais été exploités. Selon nos calculs, le grand Kivu réuni peut générer facilement 24 milliards de dollars américains par mois. Il faut savoir que 83% des minéraux qui sont exploités dans le grand Kivu sont illégalement détenus par des exploitants chinois et autres, illégalement, donc sans permis de recherche, sans permis d'exploitation, sans permis de travail, sans passeport, sans autorisation aucune. Mais au moins 750 kilos d'or par entreprise, il y en a plus de 1750, 750 kilos d'or de production par mois, déclaré. Donc c'est des milliards de dollars américains qui nous échappent chaque année. Voilà pourquoi on s'est réunis, c'est l'objet de cet accord. Et on commence à petit, on va voir comment ça va évoluer, puis on va associer les autres.
Quel serait l'impact de cet accord dans la vie quotidienne de vos populations?
Le premier impact positif sera sûrement la réduction de la disparition de nos minéraux. Maintenant, avec cette stratégie, nous allons mutualiser nos forces de défense et de sécurité, nos contrôles sur nos frontières respectives, nous allons renforcer c'est le mécanisme de vérification de la perception des taxes. Et là, ça va nous permettre de générer de l'argent. C'est-à-dire que nous allons capturer cet or qui est en train de nous échapper, cette cassiterite, ce coltan, ce diamant qui nous échappe, en étant donc, dès qu'ils ont la cargaison au niveau du nord qui vous parvient, une cargaison qui a quitté illégalement le sud qui vous, ils vont l'intercepter, ils vont faire de même, et nous allons faire de même aussi. Et puis nous voulons aussi renforcer la libre circulation des personnes et des biens. Alors ça va nous aider au fait, si on se concerte correctement, si on travaille ensemble la main dans la main, on va non seulement lutter contre le trafic illicite, mais aussi on va favoriser les échanges commerciaux, c'est-à-dire la libre circulation des personnes et des biens, qui est un droit constitutionnel. Cette union permet vraiment de faire bénéficier à nos populations les ressources et la facilitation du commerce frontalier entre nos provinces.
Monsieur le gouverneur Jean-Jacques Porossi, merci.
Merci.
Fin de Écho d'économie. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la fréquence de la radio.